Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, en 608, Boniface IV instituait la fête de la Toussaint. Il voulait réparer un oubli qui pouvait devenir une injure pour le très grand nombre de saints qui ne pouvaient être fêtés dans le calendrier liturgique. Déjà, saint Jérôme disait de son temps que si l'on avait voulu célébrer la fête de tous les martyrs, il aurait fallu en fêter chaque jour plus de 5000. Que serait-ce aujourd'hui? Et puis ce jour de la Toussaint a aussi pour but de célébrer la gloire de très nombreux saints qui ici-bas nous sont inconnus, et dans une plus large mesure, de toutes ces âmes qui n'ont pu parvenir au ciel dès leur mort, et qui ont donc dû être purifiés dans le feu du purgatoire, mais qui néanmoins ont terminé ce temps de purgation et jouissent désormais de la joie des bienheureux. Pourquoi le culte des saints est-il si important? Tout d'abord, parce que les saints intercèdent pour nous. Ils prient pour nous et nous obtiennent des grâces. Certains, notamment les faux docteurs protestants, se sont opposés à cette intercession des saints et ont avancé que les justes ne sont plus en état de mériter pour le ciel. Ils avancent la raison suivante: nous ne pouvons acquérir des mérites qu'ici-bas, ce qui est vrai. Après la mort, en effet, il est trop tard pour mériter quoi que ce soit. Notre état est irrémédiablement fixé selon ce que nous avons fait sur cette terre. À la mort, il est trop tard pour se sauver, trop tard pour grandir en grâce, trop tard pour se sauver de l'enfer. C'est fini. Les hérésiarques poursuivent et argumentent. Les justes ont déjà reçu la récompense de leurs travaux, et les prières qu'ils offrent à Dieu actuellement ne sont soutenues par aucun mérite. Elles ne valent donc rien. Que répondre? Tout d'abord, par la tradition de l'Église. La grande preuve qui justifie l'intercession des saints, c'est la pratique constante de notre Sainte Mère l'Église, qui a toujours recouru au suffrage des saints. Or, l'Église ne peut se tromper. L'Église est divine, elle est l'épouse immaculée de notre Seigneur, elle ne peut se tromper. Si nous cherchons maintenant une explication théologique à cette question, saint Thomas résout ainsi l'objection. Si les saints ne peuvent plus rien mériter pour eux-mêmes, ils le peuvent cependant pour autrui. Sur cette terre, ils ont également mérité que leurs prières fussent exaucées après leur mort. Voilà la raison théologique. Saint Thomas ajoute même que plus les saints ont une charité parfaite, plus ils prient pour nous. Et plus ils sont proches de Dieu, plus leur prière est efficace. Car tous les saints du ciel et tous les anges aiment Dieu par-dessus tout. La vision de Dieu qui illumine leur intelligence les pousse irrésistiblement à aimer Dieu de tout leur être, de toute leur force, de toute leur intelligence. Et c'est dans cet amour qu'il nous porte aussi un véritable amour de charité. Il voit clairement le prix infini du sacrifice de notre Seigneur, son sang versé pour nous, et désire grandement notre salut en ce monde, pour que nous jouissions nous aussi de la même vision de Dieu dans le ciel et soyons éternellement heureux avec eux. Et c'est ce qui rend leur prière pour nous vraiment efficace. Le principe qui soutient toute l'efficacité de leur prière, c'est la charité. C'est la charité qui rend méritoire toute prière. Saint Thomas ajoute d'ailleurs: ainsi se réalise l'ordre divin qui fait refluer le bien des supérieurs sur les inférieurs. Car Dieu a constitué les saints comme des intercesseurs, des intermédiaires entre Dieu et nous. Les protestants ont bien objecté contre la doctrine de la médiation des saints et surtout de la médiation de Notre-Dame. Ce texte de saint Paul que vous connaissez, le voici, c'est saint Paul qui parle. « Car de même qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est le Christ, Jésus, homme. Fin de citation de saint Paul. Cependant, rien n'empêche qu'il y ait d'autres médiateurs entre notre Seigneur et nous, des médiateurs secondaires. Notre Seigneur est notre médiateur auprès de Dieu, parce qu'étant vrai Dieu et vrai homme, lui seul, en vertu de ses propres mérites, nous a réconciliés avec Dieu et nous obtient de lui toutes les grâces. La Sainte Vierge et les saints, en vertu des mérites de Jésus-Christ et par la charité qui les unit à lui, nous aident par leur intercession à obtenir les grâces que nous demandons. Et c'est là un des grands biens que nous procure la communion des saints. C'est en effet une règle divine de mettre de l'ordre en toutes choses. Et quand nous parlons d'ordre, nous voulons dire hiérarchie. Mais Dieu met une hiérarchie en toutes choses, des supérieurs et des inférieurs. Ainsi, dans la création matérielle, cette hiérarchie entre les êtres apparaît clairement. Les plantes servent de nourriture aux animaux, les animaux inférieurs servent à leur tour de nourriture aux animaux supérieurs, et au sommet de la création, vous avez l'homme. Cet ordre est encore visible dans la reproduction de certaines plantes qui ont besoin de la médiation des abeilles pour que leurs fleurs soient fécondées. Quand vous prenez l'ordre social, il y a toujours une hiérarchie, quelle que soit la société. Même quand on nie cette hiérarchie, quand on dit que le pouvoir réside dans le peuple, il y a toujours une hiérarchie, plus ou moins cachée, mais il y en a quand même une. Ainsi Dieu, dans l'ordre surnaturel, a aussi mis une hiérarchie. Les anges, les saints et les saintes sont comme des intermédiaires et des médiateurs entre son Fils fait homme et nous. C'est pourquoi il donne une réelle puissance à leur intercession, de telle manière que par eux, nous recevons ce que nous ne méritons pas d'obtenir par nous-mêmes. Nous avons besoin de la médiation des saints. Deuxièmement, et conséquemment à ce premier point, cette intercession des saints, nous rendrons un culte aux saints en les invoquant. En effet, les saints intercéderont d'autant plus pour nous que nous les invoquons. C'est encore ici l'ordre voulu par Dieu. Ici aussi, les protestants, notamment Calvin et Mélenchon, ont nié que les saints puissent connaître nos prières. Dieu seul, en effet, voit par lui-même les pensées et donc les prières. Ce qui est faux. Car dans ce cas, comment certains saints auraient-ils pu exaucer ceux qui les invoquaient, sans qu'il soit possible de nier l'intervention de tels saints précis? Donnons un exemple sur des centaines de milliers possibles. Un jour, à Bologne, un enfant de 4 ans venait de se noyer. On l'avait sorti de l'eau, il était tout bleu, il ne respirait plus, il était vraiment mort. Aucun doute possible sur sa mort. Sa mère, qui était stérile et qui n'avait pu obtenir cet enfant qu'après avoir fait un vœu à Saint-Vincent Ferrier, pria le même saint et lui tint ce langage. C'est par vous, Saint-Vincent, que je l'ai obtenu. Par vous, il doit m'être rendu. Mon enfant n'a vécu que par vous. Que par vous aussi, il revienne à la vie. Et alors que cette mère parlait ainsi en pleurant, son enfant commença à respirer. Les couleurs lui revinrent. Et il lui fut rendu sain et sauf. Contra factum non fit argumentum. Contre les faits, il n'y a aucun argument qui tienne. Elle a clairement invoqué Saint-Vincent, il a connu ses prières, il l'a exaucé. À deux reprises, pour la stérilité et pour la mort de son enfant. Si nous cherchons maintenant le principe théologique, il nous est donné à nouveau par saint Thomas. Les saints, nous dit-il, voient en effet en Dieu nos prières, dans l'essence même de Dieu, dans la vision de gloire, sans que cela les distrait de leur contemplation de Dieu. C'est d'ailleurs un élément de leur gloire, de leur béatitude, que de prêter assistance à ceux qui en ont besoin pour se sauver. Cela fait d'eux les coopérateurs de Dieu dans cette œuvre toute divine qui est le salut des âmes. Il est donc tout à fait légitime de les invoquer. Question subsidiaire. S'il faut prier les saints, quel en sera le but? La réponse est la même que pour les prières adressées à Dieu. Nous pouvons prier les saints pour obtenir leur intercession, par leur intercession, les biens temporels dont nous avons besoin et qui ne s'opposent pas à notre salut, tels qu'un secours financier, une guérison, le succès à des examens, etc. Mais surtout, nous devons prier les saints pour obtenir les biens spirituels, la grâce, la victoire contre un défaut ou contre une mauvaise habitude de péché, de grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Cependant, nous invoquerons les saints, surtout ceux qui ont été canonisés, c'est-à-dire ceux que l'Église nous a donnés comme des modèles, nous les prierons pour les imiter. Nous devons nous aussi devenir des saints, peut-être pas avec la même intensité d'amour de Dieu, la même intensité qu'ont eu ces grands saints que nous vénérons, mais du moins dans la même totalité du don de nous-mêmes à Dieu. La sainteté, c'est ça, se donner tout à Dieu. Et si ce n'est pas fait ici-bas, il faudra le purgatoire pour enlever tout ce qui nous empêche d'aller à Dieu. Saint Jean Chrysostome avait l'habitude d'insister sur ce point. Dans l'un de ses sermons, il s'écrit en effet « Ne nous contentons pas d'écouter, imitons. Il ne faut pas honorer les saints en parole, mais en actes, par des actes. » Le but de notre vie est d'atteindre le vrai bonheur. Tout le monde ici-bas cherche le bonheur d'une manière ou d'une autre. Ce bonheur ne peut être atteint qu'en aimant Dieu de tout son cœur. Or, pour aimer Dieu de tout son cœur, il nous faut absolument la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est absolument nécessaire pour aimer Dieu de tout son cœur. Sans ce secours intérieur, notre volonté sera défaillante, elle sera attirée par le péché. C'est la grâce qui oriente notre volonté vers Dieu pour faire sa volonté. Or, cette grâce dont nous avons besoin absolument pour être heureux, depuis la chute de nos premiers parents et surtout depuis l'incarnation de notre Seigneur et de sa mort, nous vient du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous vient de notre Seigneur crucifié. En sorte que nous ne pouvons atteindre le vrai bonheur sans cette grâce qui nous transforme en d'autres Christ crucifiés. Nous avons besoin de cette grâce qui est crucifiante, qui nous fait aimer la croix, qui nous transforme en d'autres Jésus. Les saints qui ont été fidèles à un haut degré à la grâce de Dieu ont eux aussi été vraiment configurés à Jésus crucifié. Et ils sont pour nous d'excellents modèles à suivre, pour que nous aussi nous devenions de véritables amis de Dieu. La vie des saints n'est d'ailleurs que la continuation de la vie du Sauveur dans son corps mystique. Et bien sûr, si les saints sont des modèles imparfaits en comparaison du modèle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Cependant, d'un certain côté, les saints sont pour nous des modèles plus faciles à imiter. En effet, les saints, eux aussi, ont été blessés par le péché originel. Ils ont, comme nous, ils ont été faibles, soumis aux mêmes passions, à des tentations similaires, à des combats identiques. Alors, comme eux, nous aussi qui devons devenir des saints, nous devons prendre les mêmes moyens qu'ont pris les saints pour être des saints. Armons-nous du même courage, participons au même sacrement. Ce sont les sacrements de la Sainte Église qui ont fait que les saints sont des saints, surtout la confession et la communion. Confessons-nous comme les saints, communions comme les saints. Comme eux, renonçons aussi au plaisir du monde. Fuyons-le. Fuyons le monde et ses attraits menteurs autant que nous le pouvons. Recourons comme eux à la prière dans les tentations. Prions comme les saints. Une bonne résolution en cette fête de la Toussaint serait de lire des vies de saints. C'est ainsi que saint Ignace de Loyola s'est converti. Il avait été blessé par un boulet de canon à la jambe lors du siège de Pampelune par les Français. Pendant sa convalescence, il se mit à lire des romans d'aventure et aussi Une vie de notre Seigneur et la légende dorée du bienheureux Jacques de Voragine, qui contient de nombreuses vies de saints. Il se rendit compte que les premiers livres excitaient son imagination et ses passions, mais le laissaient vide peu après. Alors que les seconds, la vie de notre Seigneur, les vies de saints, l'enthousiasmaient plus profondément et le laissaient dans une grande paix. De cette façon, nous aussi, nous aurons sous nos yeux des modèles faciles à imiter, des guides que nous pourrons suivre, mais surtout des amis qui nous exciteront sans cesse à mieux faire, qui nous relèveront lorsque nous tomberons, dont nous aurons les maximes toujours présentes à l'esprit. Attachons-nous peut-être, en ces temps troublés, à les imiter sur un ou deux points précis. Tout d'abord, leur esprit de foi. Les saints n'ont jamais transigé sur la foi. C'est la différence avec les faux saints de l'Église conciliaire, comme Mère Thérésa par exemple. Prenez saint Athanase, son symbole. Dès l'introduction, voici ce qu'il affirme. Quiconque veut être sauvé, avant tout, doit tenir la foi catholique. Et celui qui ne l'aura pas conservée inviolablement et intégralement, sans aucun doute, périra éternellement. C'est très fort. Celui qui n'a pas la foi intégrale, qui ne l'a pas gardée inviolablement, ira en enfer, c'est certain. Sans aucun doute, certainement. Sans la foi, le zèle des missionnaires est inexplicable. La virginité chrétienne, inconcevable. Le sacrifice des martyrs, une pure folie. Autre vertu à imiter, car c'est une vertu, la coupure d'avec le monde. Il y a dans l'Écriture sainte un fait qui peut nous éclairer sur ce point. Dieu voulait châtier Sodome et Gomorre à cause de leur mœurs contre nature. Et aujourd'hui, nos sociétés n'ont rien à envier à Sodome et Gomorre. C'est un peu la même chose. Deux anges vinrent prévenir le seul homme juste de cette ville, Lot, le neveu d'Abraham, de quitter la ville. Ils le pressèrent de quitter la ville sans retard, lui et sa famille. Et ils lui recommandèrent de ne pas se retourner dans leur fuite. Alors qu'ils avaient déjà quitté la ville et que le feu du ciel était en train de pulvériser les cités coupables, la femme de Lot se retourna et fut transformée en colonne de sel, tournée vers Gomorre et Sodome. La femme de Lot a été perdue car elle était attachée à ce monde corrompu que Dieu lui demandait de quitter. Pour nous aussi, une vie authentiquement chrétienne est impossible sans une coupure de fait avec la corruption de ce monde dans lequel nous vivons. Tous les saints ont pratiqué cette coupure d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, lisons des vies de saints. Et si le temps nous manque, donnons-nous-en, en supprimant les pertes de temps sur les écrans, les films, les réseaux sociaux, le papillonnage sur les vidéos sur Internet. Que de temps perdu. Plus que jamais, en ces temps on ne peut plus incertain, nous avons besoin de l'aide des saints, de leur intercession. Confions-nous donc dans leur intercession pour qu'ils nous gardent fidèles dans la foi à l'adorable Trinité et nous obtiennent les grâces pour nous garder purs de la contagion de ce monde qui se perd. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.